Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
RTL, vous le révélez dès 18h, le chef de l'État français publiera demain une tribune donc dans plusieurs grands journaux européens, et ce, à 3 mois des élections. Et vous avez lu en avant-première, Benjamin Sportouche, ce programme plutôt volontariste, ambitieux, voire même audacieux au regard de toute l'Europe.
Oui, Emmanuel Macron ne propose pas moins qu'une renaissance européenne. C'est le titre de cette tribune en 3 chapitres. Plus de protection, 2, plus de liberté, enfin 3, plus de progrès, avec des propositions très concrètes. Dans le détail, plus de protection, c'est d'abord la remise à plat de l'espace Schengen, la libre circulation des personnes. C'est ce qui fera certainement le plus débat. Nicolas Sarkozy l'avait déjà proposé en 2016. Emmanuel Macron souhaite aussi une police des frontières commune et un office européen de l'asile. Il y a aussi un versant protection économique. Le président français propose la préférence européenne pour les marchés publics européens. Ensuite, plus de liberté. Le but, c'est de ne plus être soumis, je cite, aux puissances étrangères. Concrètement, le président français veut interdire le financement des partis politiques européens par d'autres pays. Il ne décide pas, mais on comprend bien qu'il vise les Russes. Enfin, le progrès est d'abord le progrès social. Emmanuel Macron défend l'idée d'un bouclier social, une même rémunération sur un même lieu de travail, quel que soit l'endroit en Europe, une manière de lutter contre ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Emmanuel Macron, qui n'oublie rien, et pas le climat. Il souhaite zéro carbone en 2050 et la division par 2 des pesticides en 2025. C'est dans quelques années seulement. Pour le président français, l'Europe est en danger et le Brexit en est le symbole. Ce sont ses mots et le président français en désigne les coupables, les nationalistes qu'il rebaptise les exploiteurs de colère. Dans son viseur, on l'aura compris là aussi, Marine Le Pen.
Et clairement, Benjamin Sportouche, comment Emmanuel Macron compte-t-il convaincre les 28 Européens?
Eh bien, par un grand débat. Emmanuel Macron y a visiblement pris goût. Il veut reproduire au niveau européen ce qu'il a lancé en France. Ça s'appellerait, a priori, la conférence pour l'Europe, un débat qu'il veut d'ici la fin de l'année avec des citoyens européens sans tabou, écrit le président français, quitte à réviser les traités existants. Un énorme chantier, hein, donc, mais le plus dur reste à faire, convaincre ses partenaires européens.
C'est clair, Benjamin Sportouche, service politique de la Première Radio de France. Emmanuel Macron, taille patron. On en reparle dans 10 minutes avec l'expert européen Jean-Dominique Giuliani dans notre 3 minutes pour comprendre. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, annonce lui ce soir son soutien à Emmanuel Macron pour les élections européennes. Il explique son choix dans les colonnes du Figaro apparaître demain et il annonce qu'il s'agisse tout simplement du projet européen pour lui le plus abouti. Le grand départ pour le fameux service national universel, le SNU, qui sera mis donc en place dès le mois de juin prochain. Aujourd'hui, le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, organisait une grande journée de discussion, de rencontres. Et Vincent Serrano, vous êtes rendu en immersion pour RTL dans un collège de l'Eure, l'un des 13 départements pilotes, avec de jeunes volontaires de 15 à 16 ans, plutôt motivés, Vincent.
Oui, emballé par les promesses annoncées par ce service national universel. Et c'est avec enthousiasme que Jade a applaudi à la fin de cette intervention. Jade, le dossier de candidature sera rempli ce soir.
Oui, assez enthousiaste et pressé de pouvoir participer à ce service national. Ça va nous apprendre beaucoup de choses, la cohésion, de l'entraide, mais ça va aussi nous apporter les valeurs de la France, les valeurs de la République. J'ai toujours été intéressée par aider les gens. Et du coup, le cadre militaire, je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit.
Et les parents sont d'accord?
Ils sont inquiets d'un côté, enthousiastes de l'autre. Et fier surtout, je pense.
Le cadre militaire, c'est justement ce qui intéresse Théo. C'est pour ça qu'il a posé des questions au ministre.
Pour moi, je vais être candidat au SNU parce que c'est une évidence. Parce que je vais faire l'armée plus tard, que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. À 15 ans, oui, je suis déjà sûr. Bientôt 16 ans.
Mais derrière lui, Erwan et Léo ne comptent pas candidater au service national universel pour les mêmes raisons.
Moi, je sais, c'est ma mère qui me l'a dit. Ouais, ça a l'air bien, donc on verra ça.
Si on était plusieurs à vouloir une destination, comment c'était sélectionné?
Et toi, tu souhaiterais partir où?
J'aurais bien aimé la Guyane pour les vacances.
Opération séduction réussie donc pour Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Les 30 premières candidatures sur les 2000 espérées d'ici juin arriveront dans la semaine.
À Évreux pour RTL, Vincent Serrano. Rappelons que pour le service obligatoire, ce sera à partir de 2025. Une première devant les prud'hommes aujourd'hui et des livreurs, des coursiers à vélo indépendants qui, RTL, vous le révélez cet après-midi, ont donc obtenu gain de cause après une requalification de leur contrat en CDI. Satisfaction des deux employés à part entière, bien sûr, désormais joint par Hermel Lévy.
C'est un soulagement parce que c'est une reconnaissance d'un travail qui n'avait pas été payé à sa juste valeur et en fait, on n'était pas du tout indépendant. On était sous les ordres des managers de Take It Easy qui décidaient du prix des cours, du prix des primes, de qui peut travailler et quand il peut travailler. On n'avait pas le choix de nos conditions de travail. On était obligé de porter l'uniforme de l'entreprise. On avait un téléphone qui était prêté sous caution par l'entreprise. À partir du moment où le téléphone était allumé, ils pouvaient nous localiser. Et si jamais on n'avait pas le droit de refuser des courses, si jamais on refusait une course, ils nous appelaient pour savoir pourquoi on les avait refusées. Il n'y avait jamais de négociation. On nous disait, à partir de demain, la course vaut tant. À partir de demain, cette prime-là n'existe plus. Et le nombre de coursiers augmentant, ils avaient le plus de liberté pour baisser les prix, parce que si jamais quelqu'un disait non, il y a forcément quelqu'un derrière qui en avait plus besoin, qui serait prêt à accepter un travail à ce prix-là.
Florian, devenu aujourd'hui donc contrat à durée indéterminée. On va revenir dans ce dossier tout à l'heure avec Armel Lévy sur cette décision même qui devrait peut-être faire jurisprudence. On en reparle à 22h20 dans le magazine de l'Écho. Et puis toujours dans le domaine économique, le dossier des régimes spéciaux de certaines retraites de retour au cœur des discussions sur la réforme justement annoncée cette semaine que surveillent avec grande attention en tout cas les syndicats nationaux.
RTL Grand Soir avec Christophe Paco.
À 22h07 à Grenoble, la colère froide de l'oncle de l'une des deux victimes d'un accident de scooter après une course poursuite avec des policiers samedi soir. Les deux jeunes gens de 17 et 19 ans roulaient sans casque, sans plaque d'immatriculation sur un puissant scooter volé. Le parquet retient la thèse de l'accident. L'oncle du plus jeune garçon décédé, Karim, dénonce lui ce soir sur RTL une véritable chasse à l'homme qui aurait pu être évitée.
Ils n'avaient pas de casque. Donc ces jeunes-là, ils n'étaient pas armés, ils ont brûlé des feux rouges. Certes, ils étaient en infraction, je l'admets. Mais fallait-il aller jusque-là pour chasser par la BAC? On les a forcément obligés de prendre la rocade sans lumière, sans lumière, sans casque. Donc là, on les a envoyés dans la gueule du loup. On les a envoyés à la mort. Il faut rappeler que mon neveu, il a 17 ans. Dans quel état ils étaient? Ils avaient peur. Voilà, la police aux trousses et voilà le résultat. Il est de la responsabilité de l'État de veiller sur nos enfants, la police également. Ils auraient dû faire en sorte que ces gamins ne se blessent pas. Il y a eu de la poursuite, il y a eu de la chasse, on dirait du gros gibier. Mais malheureusement, on a ôté une vie à deux personnes. On a rendu des gens malheureux, on a même mis des familles malheureuses. Un casque, un scooter, rendez-vous compte, un scooter à 1000 euros de vie, 17 ans, 19 ans. Ça se passe de commentaires.
Témoignage recueilli ce soir en exclusivité pour RTL par Serge Pueyo. Et puis dès la mi-journée, RTL vous révèle également que l'inspection générale de la gendarmerie nationale a ouvert une enquête interne après l'accident cette fois qui a coûté la vie à un couple de retraités fauché par un gendarme ivre au moment des faits il y a une semaine. Ce dernier d'ailleurs aurait été aperçu dans un bar en pleine consommation d'alcool avec des collègues qui eux ne l'auraient pas visiblement empêché de prendre son véhicule. Malek Tchekat, le frère de l'auteur de l'attentat terroriste du marché de Noël de Strasbourg en décembre dernier, a été condamné tout à l'heure à un an de prison avec sursis après avoir posé plusieurs messages le week-end dernier à caractère menaçant sur Facebook. Yannick Collant, vous avez suivi pour RTL sa comparution immédiate cet après-midi.
Une peine que le président du tribunal a tenu à expliquer. On ne va pas vous faire payer le fait d'être le frère de Sherif Tchekat. Récemment, le tribunal a condamné des auteurs d'apologie de terrorisme à 6 et 8 mois de prison ferme. La justice doit être cohérente. Difficile d'aller nettement au-delà pour Malek Tchekat, qui en postant 3 messages Facebook menaçants à une heure d'intervalle et en rajoutant des photos d'armes factices, avait bien conscience de vouloir créer une panique. Mais Malek Tchekat n'est pas son frère. Il n'est pas radicalisé. Il explique qu'il ne croit plus en Dieu. Il a été condamné à des violences, mais avant 2011. Son attitude coopérative au moment de son interpellation a aussi joué en sa faveur. Devant le tribunal, il a reconnu calmement avoir fait une connerie dans un moment d'égarement. Je ne voulais menacer personne, mais il a expliqué que sa vie était devenue très pesante depuis l'attentat. Il a même envisagé de changer de nom de famille. Et vendredi, c'est surtout l'annonce de la perte de son droit de visite pour son fils qui a fait disjoncter ce père divorcé, son fils qui représentait tout pour lui. Le tribunal a assorti sa condamnation d'un sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans et le président a lancé un dernier avertissement à Malek Tchekat, vous resterez longtemps le frère de Sherif Tchekat.
Yannick Collant, correspondant RTL en Alsace. La famille de l'ancien président du groupe Renault Nissan Mitsubishi, Carlos Ghosn, en appelle directement désormais aux Nations Unies pour non-respect des droits fondamentaux. Le pape François, de son côté, annonçait tout à l'heure l'ouverture en mars prochain des archives concernant le pontificat de l'un de ses prédécesseurs, le pape très conversé, Pie XII, à la tête de l'Église catholique pendant plus de 20 ans, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, où son silence avait interrogé plus d'un observateur. Au Venezuela, le retour du président autoproclamé, Juan Guaido, à Caracas. Il était sous la menace d'une interdiction de pays. Il est rentré acclamé par ses partisans et il appelle à manifester contre le président en place, Nicolas Maduro, ce samedi. Le football, on y retourne, football féminin ce soir. France-Uruguay avec vous, Sylvain Charlet.
4-0, 52 minutes de jeu, le quatrième but inscrit à la 48e par Gueyoro. Mais je vous conseille le deuxième but de Charlotte Bilbao, frappe des 30 mètres extérieur pied droit. Pleine lucarne, son premier but en équipe de France. Elle n'est pas prête de l'oublier, celui-là.
Merci beaucoup, Sylvain Charlet. On l'a appris tout à l'heure, l'acteur américain Luke Perry est décédé ce soir d'un AVC à 52 ans à Los Angeles. Entendez cette musique, vous vous en souvenez certainement. Luke Perry, c'était Dylan McKay dans la série à succès, une série télé des années 90, Beverly Hills. 22h11, la météo avec vous, Patricia Charbonnet, bonsoir.
Bonsoir à tous, les vents ont soufflé fort comme prévu aujourd'hui sur la moitié nord du pays au passage de la tempête Freya qui a circulé en Manche. Ce soir, les vents vont faiblir mais le temps restera encore très instable avec de fréquentes averses et ce sera exactement la même situation météo demain sur une large moitié nord avec un temps qui restera très nuageux, encore quelques pluies notamment au nord de la Seine et près des frontières du nord tout au long de la journée avec encore des vents soutenus jusqu'à 60 km/h en rafale. Alors que sur la moitié sud du pays, on conservera un temps sec avec un ciel lumineux, excepté près des Pyrénées, où là le temps sera très nuageux avec des températures comprises entre 0 et 10 degrés demain matin et 10 à 20 degrés dans l'après-midi. 10 degrés, ce sera le minimum sur le plateau de Langres, 11 à Lille, 13 à Paris, 17 à Toulouse et 20 degrés à Biarritz.
Merci beaucoup, Patricia Charbonnier.
RTL, sur la route du grand débat.
Et pendant 15 jours, avant la fin des grands échanges, RTL vous offre un portrait tous les soirs dans toute la France, de toute façon, avec cette route du grand débat qui va nous amener à Nevers ce soir avec Sinamir, reporter à votre écoute. Là, dans la Nièvre, il va évoquer avec vous ce soir, dans cette ville de Nevers, justement, la mort des petits commerces en centre-ville.
Vente judiciaire, bail ACD, fin d'activité. Durant la dernière décennie, les alentours de l'ancienne rue du commerce de Nevers ont tout eu du carnet de décès pour ces professionnels.
Petit à petit, j'ai vu les grands centres commerciaux s'installer en périphérie, j'ai vu les commerces alimentaires disparaître en centre-ville et on se dit, ben, si ça, ça part demain, il nous restera quoi ? 2015, je me suis dit, il faut faire quelque chose, sinon tu fermes ta porte.
Pourtant, 3 ans plus tard, la nouvelle mercerie de Martine ne s'est jamais aussi bien portée.
Fréquentation donc en hausse, bien entendu, un panier moyen qui augmente.
Grâce notamment au choix de la ville, rénovation urbaine, plus de voies pour entrer dans Nevers que pour en sortir, avant c'était l'inverse, et des places de stationnement pour les clients.
On a quand même 2 heures gratuites, hein. Et puis en plus on a un service exceptionnel ici.
Et puis au niveau des vitrines de Nevers, on a une charte aussi d'engagement des commerçants à former des jeunes, de nouer des relations vraiment privilégiées avec notre clientèle.
Alors que je suis plus près, moi, de la zone commerciale de Nevers.
Mais non, la zone commerciale de Nevers, elle est au cœur de la ville.
Tout le travail de Geneviève Laurent, agent municipal spécialement dédié au développement des commerces de proximité, est devenu une sorte de nounou pour les nouveaux arrivants.
Pour que les porteurs de projets, on ne les laisse pas partir, quoi. C'est-à-dire qu'on leur dise, voilà, c'est la bonne ville, on va tout faire pour vous accompagner, il faut y rester, voilà, en gros c'est ça.
Résultat, une vitrine de plus chaque mois, en moyenne en 2018 dans le centre. Et Nevers tient peut-être déjà sa nouvelle botte, prendre en charge une partie du loyer d'un commerçant durant son année d'installation. Dole, à 3 heures d'ici, le fait déjà.
Sinamir sur la route du grand débat pour RTL.